bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons... c'est une émission un peu particulière. Vous me direz, elles sont toutes particulières, bien sûr, mais enfin... comme le 22 mai, on va avoir une conférence exceptionnelle à Cordes, au Colombier, avec un historien de métier solide, etc. J'ai pensé que ça valait le coup de vous mettre en appétit, parce que je ne vais pas parler à sa place, évidemment, d'abord, parce que j'en serais incapable, et puis ensuite, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il va nous dire. Mais enfin, bon, voilà, je voudrais vous mettre l'eau à la bouche pour que vraiment vous veniez à cette conférence qui, je crois, va être intéressante et, de mon point de vue, un peu exceptionnelle par rapport aux autres. Alors, d'abord que je vous présente Monsieur Charles Peytavi, c'est un médiéviste, un professionnel, c'est un chercheur, et il s'est spécialisé non seulement dans l'Occitanie, mais sur les Cathares. Et donc c'est quelqu'un qui, comment dirais-je, connaît bien le sujet, le connaît à la fois par ses études sur les manuscrits, sur les documents, etc., par ses relations avec les autres, et puis par sa place dans l'Occitanie. Parce que vous savez que, bon, l'essentiel de la, disons, de la publicité Qatar, si on peut dire, enfin, de la diffusion de l'information sur les Qatars, elle s'est faite autour de Carcassonne et de cette région-là, quoi. Hein. Et lui, depuis de nombreuses années, il dirigeait. Il était dans une équipe, mais il dirigeait le centre d'études Qatar qui était à Carcassonne, et donc il a été au cœur de toutes les informations au sujet du qatarisme, et il a fait ça avec Anne Brenon, avec Roquebert, Duvernois, enfin tous les grands noms, pour ceux qui s'intéressent au qatarisme, tous les grands pontes. On ne peut pas se permettre de parler du qatarisme si on n'a pas lu leurs œuvres. Voilà. Et donc, il a été plongé là-dedans, et il a... Bon, maintenant, il a... Le centre a changé et maintenant il a participé à la création de ce qu'on appelle l'Association d'études du cartarisme, AEC, René Nelly. René Nelly, c'était le grand spécialiste des Qatars il y a 30 ans, vous voyez, 30-40 ans. Donc ils ont travaillé ensemble et lui, il travaille beaucoup maintenant dans cette association d'études du qatarisme, et il vient récemment, c'est plus ou moins il y a 10 ans quand même, mais il vient donc en 2012, il a créé ce qu'il a appelé un cabinet d'ingénierie culturelle, c'est-à-dire que à partir de la culture, il essaie d'approfondir l'histoire, la vie, l'urbanisme, etc. Il a fait un travail formidable, de mon point de vue, mais enfin du point de vue des spécialistes aussi, bien sûr, sur l'influence du qatarisme, la présence du qatarisme au XIIIe siècle, bien sûr, à Limoux, dans les projets d'organisation de Limoux. Il montre comment la présence des Qatars a transformé l'urbanisme du village. Enfin, à l'époque, c'était une petite ville de Limoux. Donc, vous voyez, c'est toujours chez lui. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est ce lien qu'il fait entre les documents d'histoire, les manuscrits, etc., dans lesquels s'enferme très souvent les experts ou les médiévistes universitaires, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils se bagarrent entre souvent là-dessus, et lui, il compense cela en regardant le terrain. il vient sur place, etc. Et donc, avec ce bureau qu'il appelle Patrimoine d'avenir, il essaie de montrer qu'il y a un lien entre tous ces éléments qui forment le terroir, qui forment le pays, qui forment la population d'un endroit, et puis ce qui s'est passé dans l'histoire, et les gens qui ont réfléchi sur cette histoire. Et je trouve cette approche, elle est extrêmement intéressante. Elle est exceptionnelle, mais elle est vraiment très intéressante. Et donc, ça lui donne un style très vivant, très proche. C'est pas le grand ponte qui va employer des mots savants pour faire croire pour montrer la différence qu'il y a entre lui et les auditeurs. Vous voyez, c'est souvent ce qui se passe. Donc, voilà, un homme tout à fait particulier. Ça vaut vraiment la peine de venir le rencontrer. Avant de continuer cette présentation, on va s'arrêter une petite minute.
CFM Corde, CFM, l'esprit rock.
Michel Bonnet. Nous continuons donc de nous préparer à cette conférence du 22 mai au Colombier à 18h, je vous le redis, par Charles Peitavi, qui est donc un historien, un médiéviste de profession et qui s'est spécialisé en plus sur les cathares. Et donc il va venir et il va venir nous parler des débuts de cordes. Des débuts de cordes qui ont été marqués évidemment par le catharisme, puisque c'était l'ambiance, c'était tout à cette époque-là, quoi. On le sait, on en a assez parlé. Je disais que M. Peitavi était extrêmement intéressant parce que justement il n'avait pas peur d'aller sur le terrain et d'appliquer ou de faire surgir du terrain lui-même un regard, une information particulière. Tenez, par exemple, en ce moment, depuis pas mal de temps, il travaille sur Penne. Donc la région, vous voyez, c'est sur la 4C, quoi. Et il aide à réfléchir aux fouilles, à l'histoire de Penne, etc. C'est vraiment très, je pense, très éclairant le genre d'approche qu'il va nous donner. Il est dans une association, dans beaucoup d'associations, des pontes comme ça, chaque fois une association, elle essaie de l'avoir dans son conseil d'administration, vous savez ce que c'est, quoi. Bref, peu importe, il est dans une association qui s'appelle c'est l'association d'études du catharisme, qui a été lancée par René Nelly, et elle a trois dimensions dans son travail. C'est ce qui est intéressant, et d'ailleurs, ça nous invite, nous aussi, à ne pas nous fermer sur une seule approche, sur un seul regard. Hein. Très souvent, c'est ce qui se passe. Hein. Bon, moi, j'ai tendance à tout ramener à Raymond VII, c'est évident, quoi. Vous le savez, quoi. Mais il faut essayer, justement, de pas se laisser enfermer dans une seule vision. Et ces trois dimensions que Charles Peitavi essaie de porter en permanence, d'une part, c'est de montrer la complexité de la réalité dont on parle. Par exemple, la complexité de la vie à cordes. Pour nous, fond des cordes, je dis même pour nous, pas pour tout le monde, mais il y en a qui s'imaginent que Raymond VII a un beau jour a dessiné de fond des cordes, il a fait une charte, il a invité les gens et basta, c'est parti. Non, c'est bien plus compliqué, bien plus complexe. Ça a pris beaucoup plus de temps, de la réflexion, des discussions, etc. Et puis ça a mis du temps à se mettre en place. Et c'est ce qui est intéressant de voir avec un professionnel comme M. Peitavi, de voir cela à l'œuvre ici, dans Cordes, depuis la fondation de Cordes, disons sur les 100 premières années, parce que il y a eu un gros changement au niveau des relations avec l'Église et avec le catharisme, etc., en 1321, exactement, quoi. Et donc, vous voyez, juste 100 ans, de voir comment la vie de Cordes a été bouleversée, changée, transformée, presque téléguidée par ces problèmes du catharisme, enfin, de la présence des cathares, ou tout au moins de l'attaque par l'Église et par les croisés de ce qu'on appelait les hérétiques. Et donc, Donc, premièrement, se rendre compte de cette complexité de cette époque et de la fondation de Cordes à ce moment-là. Deuxièmement, il y a une chose qu'il essaie de respecter à plus forte raison, qui est liée à la complexité, mais c'est de ne pas s'enfermer dans une seule méthode de travail, une seule discipline. Vous savez, on a des gens, bon, c'est des philologues, ils s'occupent des chartes, ils s'occupent des manuscrits, en dehors de ça, ils veulent rien savoir. Mais s'occuper de l'histoire et s'occuper du catharisme, s'occuper des troubadours, c'est pas la même chose. Et s'occuper de la poésie, de la musique, de la vie quotidienne. Ça demande des approches multidisciplinaires et ça, c'est important parce que ça diffuse les connaissances scientifiques au maximum. Ça, c'est un deuxième point que je trouve très intéressant, très important dans cette approche-là. Et puis, le troisième qui est vraiment particulier, qui est spécial à peut-être à Charles Peitavi, pas uniquement, mais enfin, qui est très, très, très fort chez lui, c'est d'écouter les voix qui montent du territoire. J'emploie un grand mot, les voix qui montent du territoire, mais c'est de se lier à la réalité d'un lieu. Quand il parle de Cordes, il veut être à Cordes, il veut connaître Cordes, vous voyez, il veut connaître les gens qui ont étudié Cordes, etc., et qui pensent pas forcément comme lui, il veut voir les façades, les maisons, etc. La même chose avec Penn, par exemple, il est à peine des heures et des heures, enfin, il travaille beaucoup là-dessus, je parle pas d'autres Carcassonne, Limoux, et tout ça. Donc, faire connaissance avec les habitants d'un territoire il y a 700 ou 800 ans, au moment de l'histoire, ça c'est une chose, mais de la même façon, Charles Peitavi essaie d'être en lien, de faire connaissance avec les habitants d'aujourd'hui, les habitants de Cordes avec nous. Et c'est pour ça qu'il aimera bien, après sa conférence, en discuter, voir avec nous comment on sent Cordes, comment on sent le catharisme ici. Parce que ça dépend beaucoup, beaucoup des endroits. On ne parle pas du catharisme de la même façon à Albi, à Limoux, à Fangeau, à Carcassonne, etc. Si pour ceux d'entre nous, ou ceux d'entre vous, vous avez peut-être fait l'expérience de ces colloques ou d'aller écouter des conférences, etc. Moi, des fois, j'en sors complètement baba en voyant que c'est complètement différent ce qui se dit à tel endroit et ce qui se dit dans un autre, dans un village à côté, une ville à côté, entre Montaillou, Fangeau, Limoux, Albi, etc., etc. Donc, voilà, on va avoir une approche extrêmement intéressante, solide, sérieuse, et c'est pour ça que je vous invite à y venir, à faire de la publicité autour de vous. Bon, on n'a pas de chance cette année parce que on ne sait pas encore officiellement si la municipalité organise le 8e centenaire, et donc il n'y a pas de publicité qui est faite, il n'y a pas d'affiche, en fait c'est vraiment... pas le grand silence, mais pas loin. Donc, je vous invite, je vous demande presque de participer à cette mise en place d'une conférence extrêmement intéressante sur le catharisme à Cordes, sur les premières années de la vie de Cordes, qui ont été très fortement marquées par le catharisme. Avant d'aborder un peu spécialement le sujet lui-même du catharisme, on refait une pause.
CFM, CFM Radio, votre radio dans le Tarn.
Thank you.
Ford 2022, Michel Bonnet. Nous continuons donc à nous préparer à cette réunion du 22 mai au Colombier à 18h sur le premier cycle de cordes, en particulier sur la place des Cathares dans le démarrage de cordes. Et nous le faisons avec Charles Peitavi, un spécialiste hautement reconnu, un médiéviste hautement reconnu sur ce domaine. Il y a une chose sur laquelle je voudrais insister, que vous savez, parce qu'on en parle sans arrêt, etc. Mais le catharisme ou le problème des cathares est un sujet qui est extrêmement controversé. Entre les spécialistes, c'est incroyable, on lit des articles qui sont noirs et blancs. Vous voyez, c'est bon, vous le savez aussi, mais selon la personne qu'on va écouter, on va se retrouver avec une vision du catharisme complètement du catharisme ou des cathares complètement différente. Et ça, il faut en avoir conscience parce que on ne peut pas atteindre cette réalité humaine dans la mesure où c'est une réalité humaine qu'on cherche à atteindre. Hein, c'est les gens qui ont vécu ici à Cordes ou dans la région à une époque donnée. C'est comme nous aujourd'hui, on est là présent. On n'est pas on n'est pas au bout du monde en Chine ou au Brésil. Vous voyez, non, on est ici à Cordes, etc., etc. Et donc, pourquoi il faut prendre conscience de cette complexité, cette difficulté à parler du catharisme ou à étudier les cathares. Bon, il y a des obstacles, il faut les voir un par un. Le premier, c'est que la documentation est rare. Malgré les apparences, la documentation est rare. Par documentation, on parle de la documentation de l'époque. On a très peu, on a quelques, disons... Bon, bien sûr, c'est des centaines de pages quand même, mais les comptes rendus du tribunal de l'Inquisition, c'est quand même pas, il y en a quand même pas énormément. Et donc, on a peu de documentation, il y a peu de chartes qui nous parlent véritablement du catharisme ou des cathares. Donc, la documentation est peu abondante. Et donc déjà. Faut la chercher, faut s'y mettre, faut l'étudier, etc. Et puis elle est difficile d'accès parce que la langue est pas la même que celle qu'on parle habituellement. Le roman, l'occitan, si on peut appeler ça, l'occitan de l'époque et pas l'occitan d'aujourd'hui. Donc pour entrer dans les nuances de la conversation, les nuances des mots, etc., c'est difficile, surtout que ça vient changer nos idées en plus. C'est pas seulement une affaire d'aller sur un dictionnaire et de dire « Ah, Ben, qu'est-ce que ça veut dire en 1250 ?» Oui, c'est pas du tout ça, quoi. C'est tout ce qu'il y a par derrière. Voilà. Et un autre obstacle énorme, celui-là, et on peut facilement le comprendre aujourd'hui, avec la place des médias et en voyant comment depuis quelques années, surtout depuis que Macron est à la présidence, mais pas uniquement bien sûr, comment les médias nous manipulent à travers l'information. Et celui qui est à l'origine d'une information a un pouvoir énorme. Or, toute l'information qu'on a quasiment à, je dirais, 80-90% de l'information qu'on a de cette époque-là sur les cathares, elle vient de l'Église, c'est-à-dire de l'institution qui cherche à détruire les cathares, à détruire le catharisme, qui parle toujours en tant qu'hérétique, donc qui a qui a une vision tout à fait particulière, qui ne sort pas tout le temps, mais quand même. Il y a qu'à voir, regarder comment de temps en temps, dans une interview, le président Macron dit dans une gare, je ne rencontre que des gens qui font rien. c'est incroyable d'entendre ça. Bon, ou bien les gilets jaunes, enfin, etc., etc. Et donc cette information, selon du fait que elle provient d'hommes religieux, c'est extrêmement... ça change beaucoup de choses. Et puis, il y a une deuxième déformation qui, elle, est un peu plus récente, c'est qu'au XIXe siècle, tout d'un coup, il y a eu une flambée d'intérêt pour le Moyen-Âge, pour ces époques-là, et en particulier avec le courant qu'on pourrait appeler, en gros, le romantisme. On s'est retrouvé avec des histoires faramineuses sur les Templiers, sur les cathares, en fait, tout ce que, bon, vous le savez, on continue encore à en voir, il y a encore des gens qui vivent avec ces sortes de mythes et qui ont, on peut aller jusqu'au château de Montségur en se disant que peut-être c'était un haut lieu de la mythologie, que le soleil nous disait quelque chose, etc., alors que ça avait rien à voir. Hein. Voilà. Donc il y a cette ambiance-là qui a été très difficile parce que bon, mais dedans, il y a quand même de l'information, mais elle est truquée. Et il faut faire attention quand, dès que quelqu'un nous parle, nous dit quelque chose sur les cathares à cause de cet aspect-là. Et puis, il y en a un autre, alors là, que vous connaissez beaucoup plus fortement, c'est la place que, depuis 20 ou 30 ans, disons, pour aller vite, que le catharisme ou les cathares tiennent dans la promotion du tourisme. Et le tourisme est surtout chez nous, dans le Midi. Hein. Alors, on a le foie gras cathare, la blanquette cathare, les routes cathare, les châteaux cathare, alors qu'il n'y en a pas eu un seul. Bref, c'est... alors, on a des... Comme ça, et Carcassonne là-dessus a mis le paquet. Hein, c'est le pays Qatar. Si vous voulez avoir les subventions de quelque part de la région Midi-Pyrénées, etc., faut pas dire du mal du qatarisme. Sinon, vous êtes on se plante. Et ça change complètement, parce que on nous dit à tel endroit le catharisme était très implanté, à tel autre endroit non. Il y a encore des gens qui vont vous dire que à Cordes on a jeté des dominicains, des inquisiteurs dominicains dans le puits de Cordes. On va vous raconter ça. Oui, ils étaient trois et ceci cela. Bon, alors que c'est totalement absurde, totalement impensable, et des tas d'autres choses de ce genre. Donc, le tourisme a fait très mal à la connaissance des cathares, et du catharisme en général. Et puis, il y a un autre obstacle auquel on ne pense pas beaucoup, et je crois qu'à Cordes, on doit faire attention à ça, c'est que ce phénomène, on peut appeler un phénomène social, parce que ça a commencé à une époque et ça s'est terminé à une autre époque. Oui, il s'est étalé dans le temps. Le catharisme avant 1209, c'est-à-dire avant le saccage de Béziers et avant la descente des croisés du nord de la France ou de l'Europe sur le Midi, ça c'était une façon d'être. Il y avait une façon d'être hérétique à ce moment-là, mais pendant que Simon de Montfort a vécu ici, c'est-à-dire entre 1209 et 1218, sa mort, grosso modo, pendant ces 10 années-là, les gens n'ont pas vécu le catharisme de la même façon que 50 ans avant. Bien sûr, les mentalités ont changé, mais surtout la peur de la guerre, la peur des massacres, des bûchers, etc., ça change la façon de vivre. On rentre dans la clandestinité, les responsables spirituels ne réagissent pas, ne font pas les mêmes sermons de la même façon. Enfin, tout ça, ça change beaucoup, parce que dans le temps, il y a un étalement dans le temps, et nous on pense 13e siècle, point fin. Et 13e siècle, ça fait quand même 100 ans. Et je ne sais pas si on peut dire sur Cordes la même chose pendant la guerre de 14 et aujourd'hui. Non, certainement pas, vous voyez. Et de la même façon dans l'espace, un étalement dans l'espace, parce que entre le bout de la Provence, Carcassonne, l'Ariège, le Quercy, le Limousin, etc., tout ça, ce sont des pays qui aujourd'hui se ressemblent évidemment beaucoup après 700 ans d'évolution, mais à l'époque très différenciés par la langue, mais par la façon de manger, par la façon de vivre, par les paysages, etc. Donc il faut faire attention à toutes ces difficultés qui viennent se mettre entre le phénomène social qu'on appelle le catharisme et nous, les observateurs. On va s'arrêter une minute pour prendre du souffle.
En mi barrio la gente está sufriendo, lo veo. Están furiosos, algunos están locos y otros pasando hambre. En mi barrio hay violencia, hay pobreza, hay miseria. Y el día ya no protege a los hombres. En mi barrio hay viejos por la calle, perdido en su locura, y jóvenes que intentan convertirse en reyes. En mi barrio hay hombres que son dignos y honrados, y se lavan el cuerpo en la alcantarilla. Olvidadas del barrio, prostitutas, inmigrantes, inválidos, drogados, pobres y analfabetas, sueltos por la ciudad. Solo yo puedo cantar para ellos, porque no me acostumbra el sufrimiento ajeno.
Corde 2022, Michel Bonnet. Nous continuons, nous terminons cette émission sur Corde 2022, plus exactement sur cette conférence que va faire le Charles Peitavi au Colombier le samedi 22 mai à 18h. Et auquel je vous invite très très fortement participer. Et je voudrais, avant, je ne vais pas parler évidemment des cathares de cordes, comparé à M. Peitavi, je n'y connais rien. Mais je voudrais souligner, pour nous préparer à mieux suivre justement ce qu'il va nous présenter, je voudrais souligner deux ou trois points qui concerne Corde spécialement. Ça on en a parlé, on en reparlera en long et en large. Vous savez que c'est un peu ce que je porte en permanence, c'est le rôle de Raymond VII dans la fondation de Corde. Et dans les premières années, dans le premier siècle de Corde, dans la vie de Corde, c'est un élément absolument capital. C'est pas seulement le fait qu'il a signé une charte ou qu'il a donné des privilèges, qu'il a discuté avec des seigneurs, avec des commerçants, comment faire ceci, cela, etc. C'est que toute sa personnalité, elle a influencé les discussions. Elle a influencé, quand il appelle des gens à venir s'installer à Cordes, les gens, ils savent déjà que par derrière, depuis, disons, depuis Beaucaire, pour aller vite, il a eu un style particulier de rencontrer la population. Il a eu une façon à lui de gérer le commerce, les relations avec les finances, etc. Sans parler des relations avec les seigneurs qui croisés, qui viennent se battre, et donc, et lui pour protéger, et quand il s'agit de protéger les Occitans, et les gens savent ce qu'il est capable de faire. Donc, ce rôle de Raymond VII, il faut constamment le garder en tête. Parce que, c'est comme nous aujourd'hui, quoi. On peut pas penser à la vie en France à l'heure actuelle pendant 5-6 ans si on s'imagine qu'on est au temps du général de Gaulle et non pas au temps du président Macron, hein, et ou même dans nos villages c'est la même chose, hein. Donc on peut absolument pas, on n'est pas sérieux si on s'intéresse à l'histoire de Cordes, l'histoire ancienne, l'histoire au démarrage de la vie de Cordes, sans donner une place tout à fait exceptionnelle à l'influence de Raymond VII sur les événements, sur les populations. Ça c'est un point. Et puis cette influence-là, on doit la regarder aussi, je dirais en plusieurs stades. Parce que Cordes, la situation du pays cordais, du Pêche de Mordagne, de Vendrac, de la Parroquiale, des villages qui existaient autour, de Salles, de Mouziès-Panès, tout ça, les Templiers de Vaour, bien sûr. Tout ça avant le surgissement de Cordes existait, et c'est là-dessus que ça s'est bâti, Cordes. C'est pas uniquement des pierres qu'on a entassées sur le Pêche de Mordagne. Et il faut pas l'oublier. Et c'est vrai pour aujourd'hui. Hein, ça, c'est clair. Et de même, une fois que le Cordes a surgi de terre, qu'on a commencé à avoir des murailles, puis des maisons, etc., enfin, pendant les 10, 20, 30 premières années, ça a évolué. Au bout de 30 ans de Cordes, les gens qui étaient là, c'était plus les mêmes. Enfin, où ils avaient vieilli, je veux dire, moi, ce que je pensais il y a 50 ans et aujourd'hui, c'est pas tout à fait la même chose. Je peux vous le certifier. Vous voyez? Et c'est pareil pour tout le monde. Pour chacun d'entre nous, et les gens avant le mariage, après le mariage, quand on vieillit, quand on a des enfants, quand on monte une entreprise et qu'elle marche, ou une autre qui ne marche pas. Donc, ça a été avant et après la fondation de Cordes. Il faut essayer d'avoir cette complexité, ce regard à plusieurs étages, comme on dit en photo, accommodé, vous voyez, sur la distance. On prend pas une photo d'un objet de la même façon ou avec la même optique s'il est à 5 mètres ou s'il est de l'autre côté de la vallée. Et voilà. Donc, accepter cette complexité, ces différences des choses. Et puis, je voudrais rappeler que il y a eu un passage, qui a transformé complètement l'histoire. Et la façon de faire l'histoire aussi de Cordes, c'est une date. Moi, je mets une date en tête parce que il vaut mieux avoir des repères comme ça. Mais c'est en juin 1321 où les inquisiteurs, le grand inquisiteur Guy, etc., les évêques et tout le reste ont fait la paix avec les consuls de Cordes. Pour ça, ils ont construit une chapelle, la chapelle Saint-Louis, etc. Mais cette date 1321, en fait, En fait, bon, bien sûr, Raymond VII était mort depuis belle lurette. Son remplaçant, Alphonse de Poitiers, était mort lui aussi. Et là, vraiment, c'est une date où on bascule, où le Midi, l'Occitanie, et Corne en particulier, bascule dans le giron du roi de France. Et donc, vous voyez jusqu'où ça va aller, ça nous amène jusqu'à aujourd'hui. Quoi. Ça a été le grand bouleversement. Et donc, c'est intéressant de se pencher sur cette évolution, comment, en l'espace de 100 ans, on est passé de la propriété de Raymond VII à celle du roi de France, si on peut employer le mot propriété, qui n'est pas tout à fait bon comme il fallait. Vous voyez, voilà, toute une complexité de la question. C'est pour ça que je n'ai jamais attaqué de front le problème des Qatars, parce que j'attendais de trouver quelqu'un qui puisse nous éclairer de façon équilibrée là-dessus. Et je crois qu'avec Monsieur Peitavi, on va être vraiment servi sur un plateau, enfin quelque chose de vraiment bien. Donc, on va regarder Corde en lien avec le catharisme ou la place des Cathares à Corde dans le courant de son premier siècle d'existence entre 1222 et 1321. Donc, rendez-vous le 22 mai à 18h au Colombier. Ne manquez pas de venir. Je vous signale que l'entrée est gratuite, donc profitez-en. Voilà, c'était Corde 2022 avec Michel Bonnet.
Comme la lune, la nuit apparaît dans ma vie. Comme une étincelle, elle met le feu sous la pluie. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment j'ai fait pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais.
Sometimes the moon hides in the clouds so high above me. Her beauty fell beyond my glances. And every morning leaves me wondering if she loves me still. I roll the dice and take my chances. I roll the dice and take my chances.
Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais.
Just like the rain, she plants a flower in the desert of my heart. Kill it with us in the sunlight. But as the hours pass, I pray for her returning to me. A lonely shadow in the moonlight. A lonely shadow in the moonlight.
Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais. Et derrière chacun de tes pas, je suis là mais tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Mais je suis et là. Et derrière chacun de tes pas, je suis là mais tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Mais je suis là. Comme la rose rouge qu'elle a posée sur ma poitrine, j'ai prié de peur qu'elle s'envole et ne s'abîme. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment j'ai fait pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, Mais tu iras où, 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 si jamais je m'en vais. Ça me rendrait hé, 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 si jamais tu partais. Mais tu iras où, où, où,
si jamais je m'en vais.
Ça me rendrait hé, hé, hé. Mais tu iras où, où, où,
si jamais je m'en vais.
Ça me rendrait hé, hé, hé.
CFM.
CFM Radio.
CFM Corde.
Rain.
CFM, CFM Radio, votre radio dans le Tarn.
Je me suis levé plus tard que d'habitude. Je ne me suis levé que pour prendre de l'altitude ce matin. Rien ne me retient.
J'ai déposé un peu de mon costume. Il y a des étoiles coulées dans le bitume ce matin.
Attendons demain, car le jour se lèvera encore. Le simple cours des choses en somme. Est-ce que tu souffleras? Siffle si tu l'oses. Je suis le vent.
Je suis la nuit.
Tu crois qu'on se ressemble? Est-ce que tu t'ennuies? Si on tombe ensemble, ce n'est que la vie.
Tu es le vent.
Tu es la nuit. Tu crois qu'on se ressemble? Est-ce que tu t'ennuies? Si on tombe ensemble, ce n'est que la vie.
Est-ce que tu as trouvé les indices que je t'ai laissés? C'est un jeu de piste pour te dire que je suis passé.
Ce matin, j'ai tout emporté. Car le jour se lèvera encore. Le simple cours des choses en somme. Est-ce que tu souffleras? Siffle si tu l'oses.
Je suis la nuit.